Merci, bonsoir Rémi. Alors j'avais envie de vous parler encore un peu d'économie numérique avec ce chiffre. 15 millions de dollars, c'est le montant qu'a gagné PewDiePie, le premier YouTuber mondial en 2016. Alors, où vous en êtes-vous? Vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube?
Oui, mais alors
Oui.
ce youtubeur-là, personnellement.
Je préfère le clip de campagne de Marine Le Pen.
Ah, magnifique, magnifique.
C'est toi toutes les vues, putain, mais Rémi, tu fais chier, franchement.
Bon. Au-delà de Marine Le Pen, donc quelqu'un connaît PewDiePie ici?
Non.
Non.
Non. Donc, c'est le premier youtubeur mondial, suédois, de son vrai nom Félix Kjellberg, et qui totalisait il y a une heure 53 247 803 abonnés. Donc, vous le connaissez pas, vous devinez pas pourquoi j'ai envie de parler de lui aujourd'hui.
Bah non, c'est même pas du tout de quoi il parle, donc...
Non, à la base, il fait du gaming comment, enfin, il joue aux jeux vidéo et fait des commentaires, bref. Depuis quelques jours, il est au-delà de ça l'objet d'une controverse, puisque vendredi dernier, le Wall Street Journal a incriminé 9 de ses vidéos en disant qu'elles contenaient des propos antisémites. C'est une controverse assez complexe et je ne vais pas tenter d'y répondre, ni même de donner mon avis. Je me contente de constater cette controverse, et c'est les implications de l'état dans lequel est PewDiePie qui m'intéresse.
Tu veux dire que ce PewDiePie perdra des abonnés ou de la crédibilité dans cette affaire ?
Oui, et on peut traduire ça en termes économiques. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que les entreprises peuvent faire moins confiance à l'image de PewDiePie et donc soient plus réticentes à investir dans ce YouTuber. Je m'explique. Depuis mardi, PewDiePie a été lâché de toutes parts par les acteurs institutionnels qui l'entourent. D'abord, c'est YouTube lui-même qui a annoncé qu'il annulait son projet de série Scare PewDiePie qui devait être sur YouTube Red l'année prochaine.
Attends, YouTube Red ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. C'est un tout nouveau service que YouTube expérimente aux États-Unis et qui, en échange d'un abonnement de 10 € par mois, vous autorise à regarder des vidéos sans publicité et surtout vous donne accès à du contenu spécial, comme feu cette saison de Scare PewDiePie. Un autre malheur pour PewDiePie, il a été lâché par son studio, qui n'est autre que Disney. En effet, comme beaucoup d'autres YouTubeurs, PewDiePie a un contrat avec un studio, donc nommément Maker Studio, qui appartient à Disney, et ce studio est en charge de s'occuper de sa communication, ses problèmes législatifs, etc. Son contrat a été annulé face à cette controverse. Bon, c'est pas fini pour PewDiePie, parce que comme vous le savez peut-être, il peut continuer à se faire de l'argent même sans studio, à partir des pubs qui arrivent aléatoirement et automatiquement au début de ses vidéos. Mais YouTube a tout de même démonétisé, c'est-à-dire enlevé les publicités sur 3 vidéos jugées inappropriées. Et ces vidéos, de manière intéressante, n'ont pas été supprimées de la plateforme pour les usagers.
D'accord, il y a donc un traitement différent pour les vidéos avec pub et les vidéos sans pub, du coup.
Effectivement. Et je trouve que ce point nous renseigne pas mal sur les complexités de l'économie de YouTube. En fait, YouTube peut être analysé en termes économiques comme un marché dit biface. Un marché, normalement, ça met en lien des producteurs, disons le Figaro, et des consommateurs, par exemple notre chronique express, Marie, peut-être.
Je te remercie pour cet hommage, Robin.
Exactement. Et donc voilà, le producteur et le consommateur échangent un produit contre de l'argent. Un marché biface, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a 2 types de consommateurs, ou plus précisément 2 types de clientèle, qui font un usage différent du produit. L'exemple canonique, c'est les journaux gratuits de type 20 minutes ou métro. Il y a 2 clientèles, les lecteurs d'une part, dont le but est donc de lire le journal, et de l'autre part, les entreprises qui mettent des publicités dans le journal et payent pour avoir une vision dans ce journal. Et c'est grâce à ce genre de marché biface donc qu'on peut avoir des produits gratuits comme ces journaux, puisque un type de clientèle, les entreprises, payent pour l'autre, les lecteurs.
Oui, alors 20 minutes, c'est gratuit, mais on n'est quand même pas super sûr de ce qu'on lit, justement parce que c'est financé par des entreprises privées.
Oui. C'est le mauvais côté des choses pour nous. Et pour les entreprises donc du type 20 minutes ou YouTube, on observe que c'est souvent assez compliqué parce qu'elles sont tiraillées entre 2 intérêts à satisfaire, ceux des 2 clientèles, des lecteurs et des gens qui demandent les publicités. Pour 20 minutes, par exemple, ils hésitent entre faire du contenu qui plaise aux lecteurs pour que le journal ait du succès et faire du contenu qui plaise aux entreprises qui les subventionnent.
Et puis YouTube, du coup, c'est pareil. C'est pour ça qu'il différencie entre les vidéos non monétisées à destination des usagers seulement et les vidéos avec pub qui prennent en compte les intérêts des entreprises qui mettent des pubs. C'est ça ?
Effectivement, en effet. À la différence seulement que YouTube n'a que peu de contrôle sur le contenu des vidéos, puisqu'effectivement, il est fait par les YouTubeurs. Il y a quelques années, quand YouTube a décidé de mettre le paquet sur les publicités, son projet était d'être une alternative forte à la réclame sur une télévision qui décroît en audience. Mais quand ça touche à la pub, les entreprises sont assez vigilantes quant à leur image. Les télévisions permettaient aux entreprises d'être sur du contenu avec lequel leur pub est... La télévision permettait aux entreprises d'être sûres, certaines, du contenu avec lequel leur pub était associée. YouTube, avec ses algorithmes de profiling, propose de cibler le public des publicités avec plus de justesse et donc de toucher les bonnes personnes. C'est un gros plus. Mais le problème, c'est que les entreprises n'ont plus de regard sur le contenu avec lequel elles vont être associées. Et ça, ça leur fait assez peur. Il me semble que l'exemple de PewDiePie le montre bien. D'ailleurs, plusieurs entreprises, comme Nissan, ont déjà annoncé qu'elles blacklistaient PewDiePie, c'est-à-dire qu'elles demandaient à YouTube de ne pas apparaître avant ses vidéos. Voilà, ce qui m'intéressait dans cette actualité, c'est le point auquel l'image, la confiance en l'image, continuait de jouer un rôle important dans les stratégies marketing. Et on peut interpréter le problème auquel fait face YouTube de deux manières. Soit son modèle marketing et économique ne fonctionne pas, soit on peut penser que les entreprises qui choisissent de mettre des publicités sont un peu à la traîne et ne comprennent pas bien la nouvelle économie numérique. Personnellement, je pense pas avoir une plus mauvaise image de Nissan si elle apparaît avant une pub de PewDiePie. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oh, personnellement, ça m'influence pas spécialement non
J'utilise un bloqueur de pub.
C'est ça.
Très bien. Bon, bah merci.
Bien, merci à toi, surtout Romain, pour cet édito économique qui nous offre un éclairage, ma foi, fort intéressant à partir d'une polémique finalement assez triviale.
Oui, et puis méfiance de YouTube Red, hein, parce que peut-être qu'un jour on pourra plus mettre de bloqueurs de publicité.
Oui, malheur. Et comment ferons-nous avec nos belles vidéos de la JDR non monétisées
Le drame.
Pour te conseiller à les monétiser un jour.
En effet, en effet.